Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Je me permets de vous recommander le canard à la rouennaise.
Le canard à la rouennaise, le rôti de sanglier au velours.
Au velours.
Ah oui, le rôti de sanglier au velours. Le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Écoutez, vous me donnerez un radis.
Comment vous dites, monsieur?
Vous me donnerez un radis.
Un radis. Bien, monsieur, et ensuite?
Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt.
Un yaourt.
Et puis alors vite, parce que je suis très pressé.
Ce sera rapide, monsieur.
Non, vous me laissez, monsieur. Ah! Monsieur? Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférais un demi-doux. Non, écoutez, donnez-moi, parce que vous ne savez pas. Attendez, je vais m'occuper moi. Vous allez voir. Attendez. Et comment elle est, votre eau d'Évian?
Elle est très fraîche.
Ah, bon. Et votre eau Perrier, comment est-elle?
Elle est bien aussi,
bien. Elle est bien. Alors, écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier, tiède, mais peu pétillante. Vous savez, voilà.
Voilà, évidemment, vous avez reconnu Louis de Funès, l'immortel Louis de Funès dans le grand restaurant. Et si l'on parle de grand restaurant, c'est que pour une fois, où je vous dis auditeur du Sud Radio, la radio se transforme en chapelle ardente. Oui, avec Céline Alonso, nous avons décidé de transformer la Sud Radio pendant une heure en confessionnal. Car nous avons avec nous le révérend père, le vénérable Alain Bauer, qui fait des confessions et qui confesse effectivement 59 chefs cuisiniers et restaurateurs. Et parmi ces 59, nous avons aussi avec nous, et ce n'est pas l'un des moindres, Marc Vera. Évidemment, il est étoilé et surétoilé. Le guide Michelin, Go et Mio, la Maison des Bois à Manigo aujourd'hui, la Fontaine Gaillon, etc., etc., etc. Alors, c'était très important parce que à l'heure où un politique, candidat à la présidentielle, se permet de dire qu'il aime la viande, le vin et le fromage, un individu, candidat du communiste aux élections présidentielles, et se fait agonir en disant que c'est honteux de parler de la cuisine, de la gastronomie française, parce que c'est encore une preuve absolue d'un fascisme totalitaire qui vous met à la droite d'Adolf Hitler. Quand on arrive à ces dérives, à ces imbécilités idéologiques, il est temps de réagir. Et nous avons le livre d'Alain Bauer, qui est un vrai antidote avec ses confessions de ces personnes qui, il faut le dire, font la France. Et nous n'oublions pas, ils la feront et ils la feront encore très, très, très longtemps.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà.
Alors, donnez-moi ça, vous manquerez.
Alors ici, j'ai des ennuis. On a tout le monde, d'ailleurs, on a des ennuis. Mais il faut servir. Et on va servir.
Voilà, Louis de Funès. Mais vous savez, nous sommes effectivement, il faut le savoir, nous avons réuni la table historique la plus extraordinaire de l'histoire de la radio, de toutes les radios. Parce que est avec nous François Vatel, Bria Savarin, Antonin Carême, Adolphe Duclairet, Auguste Escoffier, Jules Gouffet, Prosper Montagnier, Fernand Point, André Pic, Alexandre Dumaine, Eugénie Brasier, la mère Brasier, Alain Chapelle, Bernard Loiseau, Joël Robuchon, Paul Bocuse, et les mères lyonnaises, et tous les autres, et les critiques, et ce sont effectivement ceux à qui et celles à qui Alain Bauer a dédicacé ses confessions. Alors, c'est quoi ces confessions? Et on est aussi avec Marc Vera, bien sûr, ne l'oublions jamais.
Eh oui, effectivement, ces confessions, Marc Alain Bauer les a réunies dans un livre qui est publié donc chez Fayard et qui s'intitule donc Confessions gastronomiques. Alors dans ce livre, Alain Bauer, déjà bonjour à vous deux, merci
bonjour.
D'être nos invités sur Sud Radio, vous-même et le chef donc Marc Vera.
Bonjour.
Alors Alain Bauer, vous publiez effectivement donc Confessions gastronomiques chez Fayard. C'est un livre dans lequel effectivement vous êtes entretenu avec donc 59 chefs cuisiniers et restaurateurs, notamment donc Marc Vera, Guy Savoy, Lavoine, Sophie Pic, Alain Ducasse, Hélène Darroze, c'est plein grand nom donc de la cuisine, de la gastronomie française. Alors tout le monde vous connaît, Alain Bauer, comme professeur donc de criminologie et spécialiste donc des questions de sécurité, mais peu d'entre nous effectivement connaissent le gastronome que vous êtes. D'où vous vient cette passion pour la gastronomie ?
Parce que le crime paye assez pour qu'on puisse manger bien.
C'est, bon, c'est surtout parce que la différence entre la relation entre la gastronomie et la criminologie, c'est le mode de cuisson en fait. Mais sur le fond, non, en fait, j'ai été récompensé par mes parents, mon père surtout, de mes succès scolaires. Donc, en anticipant d'éventuels succès scolaires, la famille est lyonnaise, ce qui pèse un peu dans l'environnement général, par l'invitation au restaurant, d'abord d'à côté, puis d'un peu plus loin, puis de l'étoilé reconnu,
Vos parents étaient amateurs de gastronomie.
Oui, et mon père surtout fréquentait les meilleures tables, parce qu'il sillonnait la France, et donc, au fur et à mesure de l'âge, j'ai commencé à élargir le champ d'investigation gastronomique, puis à visiter de très belles tables. D'ailleurs, celle de Marc a fait partie d'une des tables que j'ai visitées il y a eu au moins une trentaine, voire une quarantaine d'années, au tout début du commencement. Et puis, je l'ai suivi, d'ailleurs. Moi, je crois que j'ai fait toutes ces tables, à mon avis. Même, même les trucs les plus invraisemblables au Palais des Congrès de Paris, à une époque.
Voilà. Le rural.
Et puis, les parties les plus historiques, celles où il avait... Un sol en verre où on voyait en
les
dessous
bêtes.
C'était
la ferme de mon père.
C'était à la ferme de son père. Enfin voilà, moi j'ai voulu absolument regarder l'évolution, les changements, et donc j'y ai pris goût naturellement.
Et la formation du palais vient des parents alors.
C'était, et puis il y a une histoire, évidemment, les grands-parents, chacun pèse un peu dans la construction du gastronomique, mais la recherche de la complexité, la recherche de la simplicité, moi je tiens à le dire, le meilleur repas que j'ai fait avec Marc, c'est un repas qu'il a fait à la Bonne Franquette un soir où j'étais chez lui.
À Montmartre, à Paris, oui.
Non, chez lui.
Non, à la Bonne Franquette, c'est une expression.
Ah, pardon, je croyais que vous parliez du restaurant.
Non, à la Bonne Franquette, chez lui, où il a ouvert le frigo et il nous a fait la cuisine, comme ça.
De manière spontanée, c'est ce qu'il y a de
plus beau. C'était un repas incroyable, extraordinaire. Bon, évidemment, ce qu'il fait dans le restaurant, c'est grandissime, mais ça, c'était encore autre chose, et je crois que c'est l'âme du restaurant structuré autour de... Parce qu'il n'était pas obligé de le faire, on aurait pu aller manger ailleurs, on arrivait à l'hôtel, on aurait pu partir. Il disait non, vous restez, on va faire ça. On va... Voilà, il était tout seul avec son maître d'hôtel et il nous a fait un truc incroyable qui était le cœur de justement ce qu'est le vrai chef. Il sait faire avec rien des choses absolument extraordinaires, simples, qu'on est incapable de reproduire, que les choses
mais
soient
ça
claires.
S'appelle de l'art, comme Picasso qui
exactement.
Prend sa palette, qui prend les couleurs.
C'est la partie artistique du débat gastronomique. Ouais. Et ça, c'était formidable. Et puis, donc, j'ai visité aussi des tout petits bouis-bouis, des endroits où on vient sympathiquement manger, qui sont pas chers, qui sont à portée. Et j'ai voulu montrer la gastronomie dans sa diversité. Vous avez cité les plus grands chefs, mais vous pourriez citer aussi tous les autres des petits jeunes, qui sont en train d'ouvrir, d'autres qui sont en pleine évolution, qui sont passés du 2 ou 3 macarons étoiles 19/20 à la petite maison chez moi. Des chefs entre les deux. Michel Guérard, entre le grand restaurant et puis sa ferme aux griffes, qui est le modèle exceptionnel de ce que doit être le restaurant, un peu comme l'était la ferme de Marc. Donc, il fallait montrer toute cette diversité, toute cette complexité, et surtout que la grande gastronomie n'était pas la grande gastronomie chère, compliquée, chichiteuse, insupportable, où on paye plus le décor que le contenu. Mmh. Moi, je dis souvent, je mange pas le décor. Moi, je mange ce qui est dans l'assiette.
Bon, j'ai pas la nappe et la vaisselle.
Alors, Guy Savoy me dit, t'es gentil, mais enfin, tes trucs en carton, en plein confinement, au troisième sous-sol, ça te fait pas le même effet qu'à la Monnaie. Je le reconnais, bien volontiers. Mais je préfère l'équilibre.
C'est pas le même prix non plus. Hein.
Oui, je préfère l'équilibre de la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette en sachant ce que j'achète. Et en me disant, le chichiteux, rien du tout, c'est pas bien parce que tu te sens pas bien dans cet environnement, mais trop devient insupportable. Et à la fin, on se demande si tu es là pour regarder ou pour manger. Et moi, j'ai voulu reconnaître dans ces chefs-là que je connais ou qui m'ont été suggérés par d'autres, qui m'ont dit, mais tu devrais parler à Machine, tu l'as vu quand elle était marmitonne.
Attendez, une chose très intéressante là, juste, c'est qu'au fond... Il y a aussi chez les chefs, j'ai marqué beaucoup plus que chez les artistes, je veux dire showbiz,
c'est qu'il y a une véritable solidarité. C'est-à-dire, on vous indiquera d'aller chez quelqu'un. On vous dira pas, ah, viens chez moi, mais les autres,
ils m'ont tous parlé de quelqu'un d'autre pour être sûr que je l'avais appelé. En se disant, bah oui, je l'ai appelé, mais j'ai pas le numéro. Mais je vais te donner le numéro de sa femme, tu verras, tu vas pouvoir mettre la main dessus. Alors oui, c'est le confinement, il répond plus, mais alors comme ça, tu vas le trouver. Et en fait, ils se sont tous organisés pour me trouver des gens que je ne trouvais pas, des noms auxquels je n'avais pas pensé, des nouveaux que je n'avais pas identifiés, parce que je l'avais vu dans des brigades, mais pas chez eux, et surtout chez elles, Darvas, Chéniaud, etc. Et donc, j'ai découvert cet univers, et vraiment, ils m'ont donné beaucoup de noms, et en fait, ils s'aiment plutôt bien. On a fait un repas tous les deux chez Jean Sulpice, c'était formidable de complexité entre l'élève et le maître, de qualité du produit, voilà. Et je crois qu'il y a tout ça qui doit être pris en compte. Ça a été vraiment un bel effort dans un moment difficile pour eux, avec beaucoup de pression, de tension, d'inquiétude.
Oui, en pleine année du Covid, vous avez
en pleine année Covid et en plein confinement, parce que j'ai commencé.
Alors, ce qui est important,
semaine,
c'est justement
la semaine où le confinement commençait. C'est la semaine où, par hasard, j'ai envoyé mon premier courrier en disant bon, j'ai envie de faire ce livre qu'on m'a demandé depuis des années, et puis c'est le moment.
Alors, parlons effectivement du contenu de ce livre qui est vraiment passionnant. Le premier chapitre est consacré donc à l'histoire de la gastronomie française. Racontez-nous comment ce terme gastronomie est apparu et qu'est-ce qu'il signifie à l'époque.
Alors, en fait, j'ai pas voulu faire une histoire de la gastronomie, parce qu'il y en a déjà plusieurs. J'ai voulu faire une histoire de la gastronomie au sens de la qualité de la nourriture, de la création du repas à la française, de l'entrée, du plat, du dessert, des entremets, des hors-d'œuvre, de sa structuration, qui est un repas monarchique et royal, mais aussi l'histoire du chef dans sa cuisine, sorti de sa cuisine, un peu par Raymond Oliver, beaucoup par Paul Bocuse, et puis du restaurant. Car en fait, on se rend pas compte, mais ces trois histoires sont parallèles, et puis à des moments se rencontrent et se retrouvent. Par exemple, la cuisine de Palace, parce que c'était une cuisine de brasserie. Et puis tout d'un coup, Jacques Maximin décide que la cuisine de Palace doit être
un grand seigneur.
Un grand seigneur, mais doit être une cuisine reconnue et qui n'est plus une cuisine de brasserie. Et il va à la pêche à la reconnaissance au Negresco. Ensuite, c'est Alain Ducasse qui reprend le flambeau. Alors, Maxima n'a réussi qu'à avoir que deux
macarons.
C'est
Maxima le premier, quand même.
C'est le premier. C'est le premier qui est intérieur. Parce que César Ritz, les premiers grands patrons de Palace. Voilà. Alors, Escoffier n'est pas un patron de Palace, mais c'est quelqu'un qui a récolté toute la cuisine dans son essence, mais et qui d'ailleurs est toujours à la mode. Maximin dit d'ailleurs, la plupart des gens pensent que j'ai inventé des plats, pas du tout. J'ai relu mon Escoffier et puis j'ai fait évoluer le plat. Et lui, il a l'honnêteté de le dire, de le reconnaître. D'autres inventent, lui, il rénove.
Alors revenons à ma première question à laquelle vous n'avez pas répondu.
Oui, j'y arrive, mais je veux expliquer qu'il y a justement trois sujets différents. Et donc, la gastronomie, c'est l'art de la restauration prise dans son ensemble, avec la création d'un endroit tout à fait particulier, qui est d'abord l'auberge où on ne choisit pas ce qu'on mange, puis le restaurant où il y a une carte et éventuellement un menu, et enfin la grande gastronomie, dite grande parce que c'est comme ça, qui est un outil autant politique que diplomatique, et qui est celle qui va être la relation au luxe dans son ensemble. Et donc le procédé est un procédé générique, mais où tout doit être pris en compte l'un par rapport à l'autre et leur intégration. Et le chef, il est au sous-sol, on ne le voit pas, à part Vatel qui nous fait un suicide parce que, soi-disant, la marée n'était pas là. Mais le fond, c'est la sortie du chef comme un élément en tant que tel du processus. Et donc, c'est ces trois histoires emmêlées qui sont le cœur de la première partie du livre, qui aurait dû être un livre en tant que tel, et que je n'ai pas voulu faire parce que j'ai dit que pour parler de la gastronomie, il fallait que ceux qui la fassent en parlent, alors que moi, je ne suis qu'un mangeur.
Alors expliquez-nous, à partir de quand on a parlé de gastronomie, Alain Bauer ?
Écoutez, on parle de gastronomie à partir du XVIIIe siècle, au moment où on commence à structurer l'idée même qu'il y a une science particulière de la nourriture, de la table, du service et du lieu où ça se passe.
D'accord, ok. Et les véritables restaurants, donc, sont apparus, on remonte à quelle période ?
Alors, ça dépend dont on parle.
Du restaurant tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Alors, le restaurant dont on parle, vous avez un très joli film qui est paru il n'y a pas longtemps, délicieux. En fait, c'est un monsieur boulanger qui, dans sa boulangerie, invente un dispositif de restauration. En fait, il invente le sandwich, quoi. Et on va commencer à voir apparaître tout ça. Donc, entre le début du 18e et une affirmation de la bourgeoisie gastronomique au 19e, vous avez le processus d'enracinement du restaurant à la française, des restaurateurs et des restauratrices, les maires dont on parle, qui sont aujourd'hui les mères lyonnaises, oui. Plus des femmes que des mères d'ailleurs, et donc la dimension féminine doit être prise en compte de manière très importante, et puis vous avez désormais des évolutions extrêmement, extrêmement larges, avec le pire, le fast-food, et le meilleur, qui est la cuisine revisitée, justement, dans l'auberge, dans le restaurant, qui n'est pas systématiquement cette espèce de gros paquebot du grand restaurant. Je pense que le vrai restaurant devrait enlever l'adjectif.
Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez que le mot cuisine, du moins le concept de la cuisine, on a mis du temps à prendre conscience de ce que c'était réellement, une science ou un art, ou une tâche ancillaire.
Une technique.
Oui, c'est ça. Technique. Racontez-nous.
Bah, c'est-à-dire qu'un concept, ça se crée à partir d'un procédé, d'une reconnaissance, d'un outil. Faire la cuisine, ce n'est pas être cuisinier. Et donc, d'ailleurs, il y a une différence. Et on sent bien, d'ailleurs, quand je raconte ce que Marc est capable de faire en ouvrant le frigo à la minute, il ne fait pas du réchauffage d'un truc qui lui a été livré par une grande enseigne dont je ne citerai pas le nom, même si ça peut être très bon. Hein. L'industriel n'est pas toujours mauvais.
Absolument.
Mais il y a un processus aujourd'hui, il faut un savoir-faire. Et la reconnaissance d'un savoir-faire, c'est le moment où on décide. Par exemple, un reporter est devenu un journaliste. Ça ne s'est pas fait en 3 minutes. Il rapportait des faits, puis il a commencé à les analyser, à les disséquer, à utiliser de son expérience, de sa compétence, et il a innover, inventer, créer des choses. C'est la même chose pour le cuisinier devient un chef dans un processus relativement lent. Et puis, il y a une reconnaissance. La reconnaissance de la cuisine, de la gastronomie, du repas à la française, qui est même unescoisé et reconnu désormais. Oui. C'est un processus...
Patrimoine immatériel de l'humanité.
Oui, c'est quelque chose de particulier, de spécial. Et on lui donne une identité parce qu'on reconnaît que ça existe et que ça ne se trouve nulle part ailleurs. Même s'il y a de grandes gastronomies étrangères, la gastronomie française, elle est unique dans sa structure et son ouverture, à condition qu'elle soit ouverte à tous.
Alors justement, moi j'ai une question à poser à Marc Véra. Marc Véra, effectivement, elle est un des confrères d'Alain Boer, mais moi c'est en tant que chef et en tant qu'artiste. Est-ce qu'au fond, dire d'un cuisinier que c'est un artiste, si on regarde les critères du mot artiste, vous vous considérez comme un artiste, ça vous paraît
Je crois que dans le mot artiste, d'abord un mot fondamental, c'est artisan. Hein. C'est très important. Mais moi, je voulais simplement vous dire que vous avez compris à travers les paroles d'Alain que c'est un gourmet, un dégustateur avant tout.
Un mangeur, et comme vous dites.
Non, j'aime pas ce terme.
Alors là, je non, mais c'est Alain qui se décrit ainsi.
Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est un dégustateur et un gourmet. Et vous avez vu comment ses yeux brillent lorsqu'il en parle. Parce que ça touche effectivement une certaine philosophie de la vie. Ça touche le cœur, en fait. Le cœur, c'est ça. Et vous savez, je crois que la nourriture est essentielle, on n'en parle pas suffisamment. Je crois que l'assiette est essentielle, parce que maintenant, en plus, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je crois que, effectivement, on va prendre de plus en plus conscience que les bons produits, les produits de proximité, les vrais produits, comme le décrit Alain, c'est en fait, c'est la pharmacie dans l'assiette. La vraie pharmacie, c'est celle-là. C'est celle des vrais produits.
La vraie pharmacie préventive, au bien bon sûr. Sens du terme.
Alors, vous savez, quand vous parlez de bah, vous m'avez posé la question, sommes-nous des artistes? Écoutez, il faut rester humble. Je crois qu'on est des artisans avant tout. Et je crois que surtout, on est sublimés par le fait... Vous savez, je dis toujours à mes élèves, est-ce que tu aimes les autres? Est-ce que tu aimes faire plaisir? Si vous n'avez pas cette vocation, ça ne fonctionne pas. Alors, effectivement, il y a l'ego qui rentre en marge, hein, j'en sais quelque chose.
Normal.
Mais non, c'est normal.
Absolument.
Et vous savez, c'est très paradoxal parce que lorsque mon maître d'hôtel venait, les clients arrivent naturellement, comme chez Guy Savoy, chez Pierre Gagnère, « Ah, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau, etc. » Bon, effectivement, on acquiesce. Et on se retourne quand même humblement, malgré mon caractère. Et à ce moment-là, on appelle le maître d'hôtel en disant « Mais... on n'a pas compris le chef, il est vexé parce qu'on lui a dit que c'était bien. Il n'aime pas l'entendre. » Et j'ai rajouté à Dibert, n'oubliez pas de dire, il n'aime pas l'entendre, mais il aime le recevoir.
Ah ouais.
Et oui, joli. C'est la fonction du cuisinier, c'est faire plaisir, être fier d'avoir fait plaisir. Je crois que c'est essentiel. C'est le cœur qui parle, c'est son envie. Voilà, c'est tout. L'artisan, il est réuni autour de tout ça. Ça peut pas marcher autrement.
Et en fait, c'est quand vous voyez que les gens qui sont attablés chez vous, d'ailleurs, On sent qu'ils sont heureux d'être là, bien heureux sûr. De ce qu'ils mangent. Bien sûr. Ça, la satisfaction. Enfin,
c'est formidable. Ah
ben, vous surtout, savez. Surtout chez lui. Hein, surtout chez lui. Ouais, le premier service, là, à 4h30, 5h, tu ne peux pas les décoller de table. Je veux dire. Ouais, tu arrives ça. Pour le deuxième ça, service, c'est le problème. La table, elle n'est pas prête. Le restaurant n'est pas vide. Il n'y a pas eu de coupure. J'ai vécu des expériences où peut-être que demain, on va pouvoir petit déjeuner au lieu de dîner.
Oui, mais je voulais poser une question quand même. Une question fondamentale qui me tourmente depuis quelque temps, depuis cette histoire de Covid. Je voulais poser une question à Alain. Lui qui est un gastronome, effectivement, quand il dit les clients partent à 17h, il en fait partie. Là. C'est lui le porte-drapeau. Hein.
J'y suis, j'y reste.
Vous savez qu'il faudrait lui poser la question, combien de fois mange-t-il chez lui?
Bah jamais, avant le confinement, jamais.
Jamais avant le confinement. Pendant le confinement, beaucoup.
On les deux.
Mais je me suis fait beaucoup livrer, hein. Je dois reconnaître. Hein.
Non, je voulais simplement poser la question à Alain.
Ouais.
Parce que c'est notre père spirituel, Alain. Parce que c'est vrai que il a une expérience de la nourriture, de la dégustation, une expérience de la vie, de son métier, qui fait que c'est quelqu'un qu'il faut absolument qu'on suive. Mais je voudrais te poser une question fondamentale. Et moi, je la ressens comme ça auprès des clients. Je suis persuadé qu'il y aura une gastronomie avant Covid, et il y aura une gastronomie après Covid.
Ouais.
Voilà, c'est la grande question. La remise en cause de tout ça, c'est effectivement le repas à domicile, qui est effectivement, pour les brasseries, ça va devenir un problème. Le travail, le télétravail.
Bien sûr, c'est lié.
Et voilà, ça, on parle de la gastronomie tous les jours. Parce que, vous savez, le mot gastronomique, il s'implante dès aujourd'hui sur une salade verte bien assaisonnée. Hein. Alors, ça commence par là.
Marc Vera et Alain Bauer, on va continuer de parler de la gastronomie.
Et Alain Bauer répondra à cette question
exactement.
Très essentielle de Marc
et on
après
va
ceci.
Continuer de parler de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain sur Sud Radio dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent, quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront un éclat, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie.
Francis Cabrel, absolument. Et puis Francis pourrait aller aussi manger chez le chef étoilé de Haute-Savoie. Marc Vera, Céline.
Eh oui, Marc Vera qui fait partie des 59 chefs qui figurent dans le livre Confessions gastronomiques, le livre donc paru chez Fayard d'Alain Bauer. Alors vous nous le disiez il y a un instant sur Sud Radio, Marc Vera, selon vous, on va assister à un basculement de la gastronomie.
Ah oui, c'est une question qui me hante depuis ce confinement et je voudrais poser vraiment la question à Alain, Alain Bauer, qui nous donne. Je ne sais pas son sentiment, parce que je pense qu'il y aura... Il y a une gastronomie avant Covid, et il y aura une gastronomie après Covid. Ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que j'ai comme l'impression que les clients ne veulent plus une dizaine de plats. Et ça, depuis le confinement, c'est incroyable. Et aujourd'hui, ils veulent 5 plats, ils veulent s'arrêter sur 5 plats. Et puis, il y a un autre problème, c'est que... Non, un autre débat, mais qui est formidable, par contre, celui-ci. C'est que la gastronomie de tous les jours, les plats que l'on déguste chez soi, les plats emportés, les plats qu'on vous livre...
Sont de bonne qualité.
Mais sont de très bonne qualité. Vrai. Et je crois que le confinement a beaucoup aidé à ce que les gens y mettent leur cœur et leur âme. Et moi, j'ai dégusté beaucoup de ces plats-là. C'est formidable. Mais des jeunes chefs se sont engagés, et même des chefs étoilés, étoqués, ne l'oublions pas, parce qu'on ne parle que des étoilés, mais aussi les étoqués, et qui ont fait des progrès incroyables. Là, on avait cette période, effectivement, qui a été très difficile pour tout le monde, et je pense qu'ils ont amené encore beaucoup plus d'eux-mêmes dans cette confection des plats, pour amener du bonheur à table, et puis, vous savez, le cuisinier, il n'aime pas tout ça, mais il aime aussi la reconnaissance, parce qu'il aime faire plaisir aux autres. Et ça, c'est incontournable.
Alors, Alain Bauer.
Alors, avant et après. En fait, je crois qu'il y a trois générations de chefs. Il y a l'avant-garde, qui avait déjà anticipé ça, qui avait décidé de choisir du local, du sans déchets, petit service,
réduire les plats,
peut-être plus de plats, mais moins abondants, moins gras, allégés, etc. Et quand j'ai regardé, j'ai retrouvé le premier plat totalement vegan. C'est un plat d'Alain Ducasse lors de sa première saison à Monaco. C'était le déjeuner où il n'y avait que des plantes et des salades.
Ce n'était pas à Juan-les-Pins ?
Non, c'était à Juan-les-Pins. Il avait déjà fait des plats légumes, pâtes. C'est son premier plat. C'était remarquable. Mais là, il avait fait un plat, une option de plat. Ce n'était pas obligatoire, mais dans les menus, il avait offert ça. Et il avait décidé de ne pas en faire un menu sectaire. Ce n'était pas ça ou rien. C'était ça ou autre chose avec de la viande, du poisson. Donc, ça n'est pas nouveau. Ça fait presque 40 ans. La deuxième génération, c'est la génération intermédiaire. Celle qui a évolué progressivement, qui a senti qu'il se passait des choses, mais qui n'avait pas basculé et qui a été bousculée par le Covid et qui, du coup, a dit « Bon, bah d'accord, faut tout changer, je change. » Alors, tout... Presque tout, beaucoup de choses, avec des chefs, moi je pense à Nicolas... Nicolas Stamm à Aubernais, il a dit, moi j'étais déjà dans ce processus-là, mais mon problème c'est que tout d'un coup, j'ai plus eu de fournisseurs. Parce que le drame du Covid, c'est pas seulement le drame des clients, c'est pas seulement le drame des ressources humaines sur lequel je vais revenir, c'est le drame des produits. Et donc du coup, il a dit, mais moi en Alsace, les légumes, tout ça, les fruits... quand même pas si simple. Donc, il a été obligé de revisiter sa carte et il s'est non pas localisé, mais glocalisé. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans un retour à une production de proximité sans s'interdire la diversité et l'ouverture. C'est un sujet qu'on a eu avec Jean Sulpice, d'ailleurs, c'est bien le local, mais les épices et tout ce qui a fait justement la création de la gastronomie par l'arrivée de produits lointains. Tu peux pas tout inventer sur place. Et puis, la troisième génération, c'est la génération qui était rétive. Moi, j'ai eu des chefs qui m'ont dit... Je réponds pas à tes questions parce que rien ne changera et tout restera comme avant.
Pas vrai.
Donc je ne veux pas me lancer dans ce processus. Et je dis, moi je respecte, mais je ne crois pas que c'est comme ça que ça va se terminer. Mais surtout, la crise la plus importante, je crois qu'elle n'est pas dans l'assiette, pas chez les chefs, pas dans le... est dans la ressource humaine.
Ah, exact.
Le traitement du personnel.
Bravo.
Le fait de les respecter. Le fait de recréer un univers qui n'est pas garde-chiourme, genre grand restaurant. Le fait d'arrêter de hurler dans la cuisine. Le fait de ne pas laisser du temps.
Non, mais c'est déjà fait, ça, là.
Non, mais c'est un
problème. Ça n'existe plus, ça.
Oui.
Non, ça n'existe plus, sauf dans les émissions Masterchef et compagnie. C'est ça?
Non, mais
on entend du show. Non,
attends, Masterchef, on peut en parler.
Ouais.
Moi, je... Écoutez. On a une alors je vais peut-être vous offusquer Alain.
Non.
Simplement, on a une chance inouïe, effectivement, de regarder Masterchef. Pourquoi Top Chef. Pourquoi?
Top Chef, oui.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que depuis 2 années, ils ont fait des progrès énormes. On n'a plus des jeunes sous les sunlight qui prennent la grosse tête. Non, c'est fini. On a des professionnels qui travaillent déjà dans des bonnes maisons, qui sont là. Et qui sont jugés par des professionnels. Et je voulais simplement vous dire, enfin, entre parenthèses, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec le Michelin, parce que c'est pas des gens qui sortent des écoles de commerce, qui montent des guides. Et moi, je préfère de loin que ça soit un monsieur comme Alain Boer qui nous juge. Il ne juge pas, en fait. Il donne son état d'esprit. C'est complètement différent. Et il a une analyse extraordinaire. Eh bien, c'est gosses qui sortent de Top Chef. C'est l'avenir de la cuisine française. Ils sont jugés par des gens exceptionnels qui sont des chefs, comme Etchebest et compagnie, que je connais très bien, qui font très bien leur travail. Et il en sort des gens qui ont beaucoup de talent. Et c'est tout nouveau depuis 2 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant, effectivement...
Parce qu'avant, il y avait beaucoup de showbiz.
Mais oui, il y avait beaucoup de showbiz. Mais maintenant, non. Ça s'efface, c'est vraiment... Bon, écoutez, j'ai eu un jeune qui sortait de Top Chef, qui avait fini 3e, enfin... et qui avait beaucoup de talent. J'ai été étonné, et j'ai vu cette évolution. Et c'est formidable pour notre métier. C'est exceptionnel, ça. Ça, c'est formidable. Bravo. Il faut que les jeunes reviennent. Non, ce que je voulais, simplement, je voulais terminer sur la philosophie d'Alain. Alors, tu parlais, de ce qui se passait en cuisine. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne.
Et en salle.
Non, mais en salle. Mais c'est de l'histoire ancienne. aujourd'hui, attendez, il y a une respectabilité qui a été mise en place il y a une dizaine d'années. Elle est complètement effective aujourd'hui, moi je peux le dire. On a vu l'évolution.
Il n'y a plus les tyrans et les garçons.
Non, non, les plus. Non, les, le problème.
Les,
non,
les petits
non,
mais, chefs, quoi.
Non, mais attendez, dire, attendez. Ouais. Non, attendez. Non, non, là, mais... attendez. Là, je suis presque un peu offusqué quand je vous entends, quand je t'entends parler de tyran. Ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'on est devenu, à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, on est allé peut-être un peu trop loin, nous les chefs, mais c'était l'exigence.
Non, mais je comprends,
oui,
c'est pas...
parce qu'on était tellement exigeants. On n'avait pas la formule pour incarner cette exigence. On l'a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, simplement, il faut penser aux jeunes. Vous savez, le débat fondamental de ce dont on parle, c'est effectivement, Alain l'a très bien dit, c'est aussi la transmission. Transmettre, mais qu'est-ce qu'on va transmettre, nous, en cuisine? Eh bien, simplement leur dire aux jeunes. Vous savez, la cuisine, c'est un métier de passion. De passion avec un grand P.
Vous-même, vous-même, Marc Vera, qui est-ce qui vous a transmis cette passion?
Ben moi, j'ai eu de la chambre, j'ai une histoire, un peu atypique.
D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance. Et votre livre, qu'il faut lire aussi.
J'ai eu la chance. Enfin, Alain le sait très bien. J'ai eu la chance. Moi, j'ai eu une chance que beaucoup de chefs n'ont pas eue, parce que la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas fait d'apprentissage. Je n'ai jamais travaillé chez un grand chef. Mais par contre. Comme disait Bocuse, j'ai peut-être fait un des plus bels apprentissages. Vous savez ce que c'est ? Ben c'est celui de la terre. Celui de la ferme de mes parents. Moi, je suis né auprès des vaches, au cul des vaches. Hein ? Savoir, être suffisamment solidaire, respectueux. Parce que toute une histoire, la terre, savoir planter les graines, faire pousser les plantes, parce qu'il fallait qu'on vive en autarcie, savoir traire les vaches, à 15 ans on savait traire les vaches, fabriquer un fromage, respecter toute cette nourriture, c'était fondamental. Moi je n'ai jamais vu mon papa, quand on parle d'engrais chimiques, vous voyez mon père acheter des engrais chimiques, mais vous savez pourquoi il ne les achetait pas mon père, d'abord et avant tout? Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Parce qu'ils étaient pauvres, ces gens-là. Ouais,
parce qu'ils n'avaient pas les moyens.
Mais ils n'avaient pas les moyens. Donc ça ne leur venait pas à l'esprit de produire plus. Il fallait produire les... Mais moi, j'ai eu une chance. Mes pauvres, pas vous imaginer. À 18 ans, eh bien, on pouvait partir dans la vie. Parce qu'on était... On était effectivement près de la terre. On savait... Voilà, on savait fumer un jambon, on savait faire des boudins, terrines, on savait traire les bêtes, on savait faire son propre
en fait,
jardin.
On fait l'apprentissage sur le terrain.
Il y a beaucoup de chefs comme ça, parce que quand vous lisez leur parcours, il y en a beaucoup qui sont fils de paysans, qui sont proches du produit, et qui ont évolué à partir de cela. Vous avez dans la nouvelle génération, Glenn Viel par exemple, qui dit, moi le premier truc que j'ai fait, c'est un, j'ai supprimé les déchets, mais deux, j'ai réouvert un espace de culture pour cultiver le produit. C'est-à-dire qu'ils ont inventé même leur local quand ils ne l'avaient pas. Donc ça rentre tout à fait dans la logique de ce qu'indique Marc.
Et nous, on a... Alors, avec cette éducation fondamentale que j'ai eu une chance inouïe. Moi, je suis un enfant gâté.
Et c'est aussi la raison pour laquelle vous avez, on peut dire, axé votre cuisine sur l'environnement. Vous avez amené
l'environnement
dans l'assiette.
Bien sûr, moi je l'ai axé depuis 30 ans. Enfin, Alain le sait très bien. Vous savez qu'on est quand même le seul restaurateur au monde à traire nos vaches, avoir le lait de nos vaches dans notre propre restaurant.
Vos propres herbes.
Avoir un hectare de jardin, même si ça n'a pas été reconnu par les médias. Il y a longtemps qu'on le fait. Et ça, je trouve que... Ce moyen, ça c'est un moyen de transmission auprès des jeunes qui est hyper important. Vous savez, quand les jeunes viennent, mais voilà, c'est l'histoire de la terre, c'est l'histoire du vécu. Et puis, vous savez, tout à l'heure, il y a une réflexion qu'Alain a fait, qui a tourné dans ma tête, là, qui a fait un tour. Mais vous savez, la gastronomie, moi j'ai vécu, truc de fou, l'obsession religieuse chez nous, dans le monde paysan. Mais les religieux, c'était le summum.
Oui,
il fallait respecter. Mais attendez,
le respect du curé.
Mais vous allez voir. Mais c'était formidable. On avait un repas par an. Et comme par hasard, mon grand-père, qui était un avant-gardiste, communiste, farouche, qui était pour le tourisme, qui était extraordinaire, invitait les François de la commune. Non, parce qu'il s'appelait François. C'est absolument incroyable. Et on avait les François, et là, il invitait ses frères, ses sœurs. Donc, il y avait son frère qui était curé, une de ses sœurs qui était nonne, ses autres frères étaient là. Et c'était extraordinaire, moi, ça m'a marqué à vie. On bénissait la table.
Ben ouais.
Le curé bénissait la table. Et mon grand-père était à côté, les bras croisés. Et là, ne faisait aucune réflexion ni aucun signe, parce que la nourriture arrivait. Et c'était la spiritualité de la nourriture. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai vécu ça, mais de plein fouet. Ben ouais, et vous rendez compte que ma maman, vous rendez compte, le pouvoir de l'ecclésiastique à l'époque. Moi, je me souviens, j'avais 8-10 ans, j'étais à côté de mon grand-père. Donc son frère qui était curé. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la table, c'était génial. Maman lui passait la serviette et lui attachait la serviette autour du cou parce qu'il allait passer à table. Mais vous imaginez, mais c'est incroyable ce truc, c'est un truc de fou.
Et l'histoire de votre chapeau est liée aussi, je crois, à votre enfance.
Ah bah bien sûr, l'histoire de mon chapeau, elle est très simple, hein. Je vous la fais en très courte. L'histoire de mon chapeau, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire... C'est pour ça que quand certains journalistes m'ont offusqué au début en disant « C'est quoi ça, ce chapeau, c'est quoi cette croix ?» Eh bien ce chapeau, ils ne me l'enverront jamais de la tête. Parce que c'est le chapeau d'une histoire, d'une adolescence, une histoire familiale. Parce que mon grand-père était berger, il vivait avec mes parents, mes grands-parents. On vivait tous ensemble, vous savez, il y a une respectabilité. Nous, il n'y a jamais eu un mot plus lourd que l'autre. Mon grand-père était communiste, il venait... Jamais je n'ai... Alors qu'il y avait l'opposition aussi, il y avait des oppositions aussi dans la famille. Respectabilité, jamais un mot plus fort que l'autre. Par contre, ils avaient des idées tellement fortes qu'ils allaient au bout des choses. Et vous vous rendez compte que ce grand-père, alors qu'à Manigot, c'était une commune rurale, il y avait 60 élèves, 60 garçons chez les curés, chez les frères, et 40 filles chez les nonnes. Et vous savez ce qu'il a fait le grand-père ? Il dit « j'irai jusqu'au bout ». Mes filles iront à l'école laïque. Comme il avait suffisamment de pouvoir dans la commune, il a fait venir l'école laïque au centre du village, certainement par provocation aussi. Et naturellement, ma maman et ma tante ont eu une éducation extraordinaire puisqu'elles étaient les deux seules élèves. Personne ne voulait aller à l'école laïque. Et un jour, à force de casser les carreaux et de défoncer la porte... Le grand-père a dit « c'est pas possible ». Donc l'école a été mutée à Tournance à 6 kilomètres.
Oui.
Et à 6 kilomètres, mon grand-père, mon autre grand-père, dit « mais c'est pas possible, ce gamin, à 5 ans et demi, il fait autant de kilomètres pour aller à l'école et revenir, et dans la neige l'hiver, attention, hein, à 6 ans. Hein, et j'étais quelqu'un de très heureux. » Et mon grand-père, l'été, il dit quand même, mon autre grand-père, puisqu'on vivait avec les deux couples, mon autre grand-père, qui était l'opposé de mon grand-père communiste, dit quand même « c'est quand même malheureux, cet enfant qui fait autant de kilomètres, parce que son autre grand-père, il avait par idéologie, il a mis l'école là-bas. Donc il m'a emmené à l'école, mon grand-père. Et cette image extraordinaire d'un grand-père assis au milieu des moutons, parce qu'il prenait les moutons, les chèvres, il mangeait les talus, autour de l'école, il mangeait l'herbe, il était assis au milieu de ses moutons, et je sortais de l'école... Et qu'est-ce qu'il y avait sur ce chapeau, parce qu'il avait ce chapeau noir ? Eh bien, il y avait les fraises des bois du jour, il y avait, le moment voulu, les framboises, le moment voulu, les myrtilles. C'était extraordinaire, j'embrassais...
Il vous apportait le goûter, en quelque sorte.
Mais c'était incroyable. mes premiers pas gastronomiques.
Et c'est ça extraordinaire.
Juste extraordinaire ce que vous racontez, ce que raconte Alain Bauer dans son... Et ce que raconte Marc Ferrat. En fait, vous racontez des histoires d'amour, hein.
Ah oui,
quelque part, ce sont des histoires d'amour. C'est-à-dire, quand Marc Ferrat parle de ça, ça montre à quel point tout ça est lié. On va peut-être prendre une petite pause et se retrouver tout de suite après.
Oui, à tout de suite. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Marc Ferrat et Alain Bauer. Et on va continuer de parler de gastronomie française.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Ton œil profond d'Hidalgo Tango, tes joues creusées haut, guerrier roule, tourbillon des belles danseuses rêveuses, que la révolution rend nerveuse, mais l'estomac y tient pas le tempo. Tombe de haut gringo pistolero, dans la crème chantilly les gâteaux, dans la crème chantilly les gâteaux. T'es en pâté pâteau par les pâtés les gâteaux, nous la beau, nous la jolie, en kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop.
Oh.
On est foutu, on mange trop.
Alors, je ne sais pas, Alain Souchon, si on est foutu ou on mange trop. On en a parlé avec Alain Bauer et avec Marc Ferrat. Je crois qu'on mange autrement, qu'on mange mieux. Et qu'effectivement, c'est pas la chose la plus importante. En revanche...
Eh oui. Alain Bauer, alors dans votre livre, effectivement, vous confessez 59 chefs cuisiniers et restaurateurs, parmi eux, donc je le rappelle, Sophie Pic, Hélène Rose, Yannick Aleno, Georges Blanc, Thierry Marx, Pierre Gagnère, Guy Savoy et effectivement donc Marc Vera qui est avec nous sur Sud Radio. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tous animés d'une même flamme ?
Ils sont tous animés d'une flamme, ouais. Pas la même. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant, c'est la diversité. Vous voyez, c'est le problème de... Un guide, est-ce que c'est fait pour classer ou est-ce que c'est fait pour proposer ? Moi, je pense qu'un guide, c'est fait pour proposer un parcours, une aventure gastronomique dont on va choisir l'intensité, le niveau, la diversité, la qualité. Voyez-vous, vous citez beaucoup de très grands chefs très connus, vraiment le sommet. Mais j'ai voulu partager ça avec des moins connus.
La nouvelle génération. Oui.
Horvitz à Paris, oui. Chéniaud à Paris, Darvas Benicio, Christophe Herrache qui a fait le choix d'ouvrir sa petite maison tout seul à Égalières après avoir connu les cimes. D'autres qui sont des héritiers, vous en avez cité. Pic, dès qu'ils sont héritiers, rien du tout, et qui sont arrivés là à la dure par le parcours, Grégory Marchand, voilà. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont tous la flamme, tous ceux qui sont dans ce livre.
Alors, il y en a une dizaine, leur flamme.
Il y en a une dizaine qui n'ont pas voulu répondre, qui étaient un peu traumatisés, qui étaient un peu au catancou, qui... Enfin, il y en a qui ont regretté d'ailleurs depuis en disant « Mais en fait, j'ai pas compris, je pensais que tu faisais un livre de recettes. » Je dis « Moi, un livre de recettes, quel intérêt ?» Ça n'en a aucune. Il y a des recettes, mais vous voyez, ce n'est pas les recettes du restaurant. C'est la recette nostalgique
de leur
qui
enfance.
Correspond à un moment de leur enfance, de leur grand-mère, du jour où ils ont réussi un concours. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ils ont tous une flamme, ce n'est pas la même.
Alors, Marguerite, effectivement, quelle recette vous proposez dans ce livre ?
Bah écoutez, je vais proposer plusieurs recettes. Alain a choisi parce qu'il a des souvenirs chez moi de choses qui se sont passées. Et entre autres, simplement, je voulais revenir sur très peu de temps sur une chose incroyable, c'est que, vous savez que, je crois que la nourriture, l'éthique de nourrir quelqu'un, c'est qu'il soit suffisamment nourri. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens quand même, il y a des jeunes... Vous savez qu'il y a des enfants qui meurent de faim sur la Terre. C'est terrible. Et nous faisons un métier pour rassasier le monde. Alors, s'il vous plaît, on a 30% de la marchandise gaspillée. Mais vous vous rendez compte, des produits gaspillés. Mais est-ce qu'on... Je crois que la première chose à faire en cuisine, c'est l'anti-gaspillage. Et vous savez, aujourd'hui, et Alain le sait très bien, eh bien, les épluchures, on ne les jette plus. Et oui, et on fait un tas de choses avec. Donc on revient au principe de base, et je trouve que c'est très bien, avec peu de choses, on fait des choses sublimes, parce que sublimer un produit simple, c'est l'extase, parce que oh, il a fait ça avec des épluchures, il a fait ça avec de la pomme de terre, il a fait ça avec des produits de première nécessité, c'est les sublimer, et ça, on sublime effectivement, avec les produits de première nécessité, on sublime les gastronomes.
C'est vrai, et il faut connaître, d'ailleurs je rappelle le livre de Marc Vera qui est paru il y a 4 ans, l'autobiographie « Un chemin de fleurs et d'épines » chez Michel Lafon, aux éditions Michel Lafon, Alain Bauer, les confessions gastronomiques, mais juste quelque chose, je voudrais que tous les deux répondiez très rapidement parce qu'on a peu de temps. En fait, si je vous disais un mot pour dire l'acte de manger, je parle chez des gens qui savent faire manger, qui savent cuisiner, vous verriez quoi ?
C'est la vie.
La vie. Et vous, Marc ?
Je crois qu'Alain a tellement bien répondu que je dirais simplement, c'est que l'acte de manger, c'est de mieux vivre. Et peut-être allons-nous encore plus loin. Et si l'on enlevait le masque et se dire, l'acte de manger, c'est de vivre peut-être plus longtemps. Parce que l'assiette sera meilleure.
Absolument.
En tout cas, à propos, effectivement, je voulais signaler qu'André Berkoff, vous participez à un one-man show entrée plat dessert qui va se jouer au théâtre du Gymnase à Paris Tous les jeudis, je crois, et tous les vendredis, à partir du 20 janvier, racontez-nous un mot sur cette pièce.
Oui, non, c'est entrée plat dessert, puisqu'on est en harmonie avec ça. C'est un one-woman show de Sylvie Malice, mis en comédie de Michel Thibault, et moi, je joue le maire, et je ne suis venu que parce qu'on mange à la fin, vous voyez. Je suis extrêmement intéressé. Mais encore une fois, lisez
vous
les confessions.
Vous êtes la première mère de Sud Radio, en fait.
Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas, tu honoreras ton père et ton mère.
Exactement.
Voilà, en tout cas, si vous voulez aller voir cette comédie de Michel Thibault et Sylvie Malice, vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le site, notamment Billets Réduc ou sur le site du Théâtre du Gymnase à Paris. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie. En cette journée mondiale de lutte contre la pédocriminalité, elle reçoit le psychothérapeute Pascal Neveu. Comment aider les victimes à s'en sortir ? Réponse dans un instant sur Sud Radio.